Bien, bonjour. Donc, alors, effectivement, je vais vous parler des processeurs. Les processeurs, vous le savez tous, sont les cœurs des ordinateurs que l'on a aujourd'hui. Et le titre de mon séminaire, ce n'est pas processeur, mais c'est évolution des processeurs, parce que c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Les connaissances, en fait, deviennent caduques très rapidement. Et si je prenais un processeur actuel d'Intel, par exemple, je le décomposais, probablement dans quelques années, ces connaissances n'auraient plus beaucoup d'intérêt. Alors, il est probablement plus intéressant, en tout cas au moins plus pérenne, de considérer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui dirige l'évolution de ces processeurs, d'où on est parti, à quel type de processeur on est arrivé. Et ça peut peut-être nous donner les outils pour essayer de comprendre comment ces processeurs pourraient continuer à évoluer dans les années qui viennent. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un processeur ? Un processeur, c'est un circuit électronique a priori comme un autre. On a quantité de circuits électroniques. Le but d'un circuit électronique, c'est de réaliser une fonction ou un algorithme. La particularité d'un processeur, c'est que c'est un circuit électronique universel. Il va nous permettre de réaliser n'importe quel type d'algorithme. De quoi on a besoin pour pouvoir réaliser n'importe quel type d'algorithme ? Essentiellement de trois choses. On a besoin de pouvoir savoir faire du calcul, bien sûr, pouvoir évaluer des expressions logiques, comme le test que vous avez ici, et on a besoin de pouvoir stocker de l'information. Ce sont les trois éléments qu'on doit savoir implémenter. On va d'abord voir comment rapidement les implémenter, ensuite comment on peut les combiner pour former quelque chose qui nous permet d'exécuter d'abord un algorithme particulier, puis n'importe quel type d'algorithme, et ensuite on va voir comment est-ce que ça a évolué dans le temps. Alors de quoi on a besoin maintenant pour faire ça ? De quoi on dispose ? En fait, de très très peu de choses. On a juste besoin de quelques portes logiques élémentaires, donc les portes non et ou que vous avez déjà vu plusieurs fois avec Gérard. Et ça, ça va nous permettre en fait d'implémenter toute fonction logique en utilisant le résultat de Shannon, qui nous dit notamment que même la porte non et la porte et forment un ensemble fonctionnellement complet. Et donc, il suffit de savoir implémenter en matériel ces deux circuits pour pouvoir construire n'importe quelle fonction logique. On a besoin, en plus de ces fonctions logiques, de ces quelques portes logiques, d'un signal d'horloge. Les portes logiques vont nous permettre d'implémenter des fonctions logiques ou arithmétiques, mais pas des algorithmes. Pour pouvoir implémenter un algorithme qu'on peut voir comme une séquence de fonctions, en fait, on a besoin de cadencer l'exécution de ces fonctions, et pour ça, on va avoir besoin de notre signal d'horloge. Mais c'est tout ce dont on a besoin pour pouvoir implémenter tous les éléments qui nous sont nécessaires pour avoir un processeur. Alors, on va commencer par la partie fonction. Je vais faire assez rapidement parce que Gérard en a déjà beaucoup parlé dans son cours. Pour implémenter une fonction logique, en fait, on part, finalement, je peux revenir peut-être sur le transparent précédent, on part d'une table de vérité, c'est-à-dire qu'on a une spécification de notre fonction. Comme on est en binaire, on peut entièrement caractériser une fonction en énumérant l'ensemble des valeurs possibles, des variables d'entrée, et à l'aide de la spécification, on peut déterminer la valeur de la sortie, ça nous donne la table de vérité, et on a des méthodes relativement simples pour pouvoir convertir une table de vérité, quelle qu'elle soit, en un circuit logique. Alors un premier exemple qui n'est pas innocent, je vais utiliser de circuit logique, qui est le multiplexeur, que vous voyez ici, je prends le pointeur. Et bien donc, avec ce circuit logique-là, vous avez un circuit de choix, c'est un peu comme un if. Donc vous avez un signal de contrôle qui est le C. Lorsque C vaut 0, vous allez avoir en sortie A, et lorsque C vaut 1, vous avez en sortie B. Donc un petit circuit d'aiguillage, de choix ici, et qui s'implémente de cette façon-là, ici sous forme de porte logique, quelques portes logiques, et ou non, le non est représenté par le petit rond. Pour la partie arithmétique, c'est exactement le même principe. Les 1 et 0, qui sont normalement le faux et le vrai, eh bien, on peut les interpréter comme des valeurs arithmétiques binaires. Donc on fait une table de vérité exactement de la même façon. Et à partir de cette table de vérité, on interprète maintenant le 1 et 0 comme de l'information logique. Et en utilisant le même système, eh bien, on peut obtenir des circuits logiques. Donc ici, le plus petit circuit arithmétique qu'on puisse réaliser quasiment, qui est un additionneur 1 bit, deux variables d'entrée x et y, la retenue ici d'entrée, retenue de sortie, la sortie, ça nous donne deux circuits logiques, le circuit de retenue ici, de sortie, et le circuit de sortie de la valeur elle-même de l'additionneur. Alors, avec ces quelques éléments ici, ces quelques circuits logiques, eh bien, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour pouvoir exprimer n'importe quelle fonction arithmétique et n'importe quelle fonction logique. Ce que l'on va faire, ce n'est pas implémenter, bien sûr, de grandes fonctions logiques ou arithmétiques. On va toutes les décomposer en éléments, étapes élémentaires. Donc, on va traduire une fonction logique complexe, en fait, en une séquence d'opérations logiques élémentaires, et pareil pour les fonctions arithmétiques, quel que soit leur degré de complexité, on va les décomposer en opérations arithmétiques élémentaires. Alors, quelles sont les opérations logiques élémentaires? On a déjà vu qu'avec le « et » le « non », on avait déjà tout ce qu'il nous fallait. Donc, voilà finalement les portes logiques élémentaires qu'on a besoin de mettre dans notre processeur. Pour la partie arithmétique, on peut décomposer toute fonction arithmétique en les quatre opérations élémentaires. Et les quatre opérations, on peut toutes les décomposer en addition. Donc, finalement, tout ce dont on a besoin, c'est d'un additionneur. Donc, on met notre additionneur un bit ici. Eh bien, ces quelques circuits logiques-là forment déjà le cœur de notre processeur qu'on appelle l'unité arithmétique et logique. Et beaucoup de processeurs aujourd'hui encore, comme des processeurs de téléphone portable, il y en a certainement énormément dans la salle, eh bien, fonctionnent en fait avec exactement ceci, ou plus ou moins presque exactement ceci, comme circuit logique. Alors, maintenant, on a plusieurs circuits ici, et à chaque instant, on va vouloir utiliser un de ces circuits-là. Donc on doit pouvoir choisir, donc c'est pour ça qu'on met notre circuit de choix ici derrière, il a 4 entrées cette fois-ci, donc 2 puissance 1 entrée, n bits de contrôle, on a 2 bits de contrôle, et ce circuit va nous permettre de déterminer laquelle de ces opérations-là on veut voir en sortie. Ce qui est peut-être un petit peu troublant par rapport aux gens qui font de la programmation, on ne détermine pas quand est-ce que ces circuits calculent, ils calculent en permanence, ils réagissent en permanence aux informations qu'ils ont en entrée. Par contre, nous, on veut pouvoir exploiter, sortir une de ces informations à un instant donné. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on utilise simplement nos bits de contrôle ici. On associe chacune des opérations qu'on a ici à une valeur de ces bits de contrôle. Donc, ça nous donne une petite table un petit peu comme celle-ci. Eh bien, cette petite table-là, c'est déjà l'embryon du jeu d'instructions qu'on va trouver dans un processeur. Quand vous avez un processeur, vous avez des instructions, on va voir ça un peu plus en détail. Ces instructions, c'est juste des ensembles de bits. Eh bien, dans tous les processeurs, vous avez quelques emplacements de bits qui correspondent à la commande de l'unité arithmétique logique. On va prendre 2, 4, quelques bits pour aller commander quelque chose comme un multiplexeur qui va nous permettre d'avoir ici une opération donnée qui va s'exécuter. Donc voilà déjà le premier embryon de notre jeu d'instructions. Ça, c'est une unité arithmétique et logique 1 bit. On a juste un additionneur 1 bit, une porte et une porte non. La plupart des processeurs fonctionnent avec un grand nombre de bits pour faire des calculs. On va faire des calculs en 4 bits, 8 bits. Cet ordinateur utilise 64 bits, vos téléphones portables 16 bits, 32 bits. Comment est-ce qu'on réalise ça? Eh bien, c'est tout simple. Vous prenez simplement N unités arithmétiques et logiques et vous les connectez entre elles de cette façon-là. La connexion, il n'y en a vraiment qu'une seule à réaliser, c'est la propagation de la retenue ici de l'additionneur. On doit envoyer la retenue de sortie, vers la retenue d'entrée de l'additionneur de l'unité arithmétique et logique suivante. C'est tout ce qu'on doit faire. Et avec ça, on a une unité arithmétique et logique et le cœur d'un processeur. Et beaucoup de processeurs, des premiers processeurs, comme certains des processeurs simples aujourd'hui, fonctionnent exactement suivant ces principes-là. Alors ça nous donne déjà la partie fonction. On peut avec ça décomposer n'importe quelle fonction logique arithmétique et l'utiliser, l'exécuter sous forme d'une séquence d'opérations élémentaires dans l'unité arithmétique et logique. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est passer à la partie algorithme. Comment est-ce qu'on peut créer cette séquence de fonctions, d'exécution, d'étapes? Eh bien, la première question qu'on doit essayer de résoudre, c'est déjà comprendre comment on doit connecter plusieurs opérateurs entre eux. On va oublier un instant l'unité arithmétique et logique, et on se pose la question, si j'ai plusieurs opérateurs, comment est-ce que je peux les connecter a priori entre eux? Alors, je prends deux exemples très simples. Gérard? J'ai pas mon micro, est-ce que vous m'entendez peut-être?
Oui, mais pour l'enregistrement, ça va marcher.
D'accord. Bon, bah, écoutez, je vais recommencer alors. Non, je plaisante. Donnez-moi un instant. OK. Alors, donc, on continue. Donc, on en a ici nos deux opérateurs. Donc, j'ai pris deux exemples simples à nouveau. Donc, un additionneur 4 bits, un additionneur 2 bits. Et mettons qu'on veut additionner les 4 bits de sortie de ce premier additionneur dans ce deuxième additionneur. Comment est-ce qu'on doit procéder maintenant pour connecter ces opérateurs? A priori, la solution simple, c'est simplement dire, bon, ben, je mets des fils entre eux et je les connecte. Alors, c'est effectivement une façon de procéder, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un temps de calcul nécessaire. Même si ce temps est extrêmement faible, des fois de l'ordre de la picoseconde, on a besoin quand même de savoir quand est-ce que cet opérateur a terminé de s'exécuter pour savoir que la valeur de sortie est valide. Tant qu'elle n'est pas valide, on ne peut pas la récupérer pour l'utiliser dans l'opérateur suivant, sinon le résultat sera faux. En plus, ici, on a un problème de temps de propagation à cause de la retenue. On ne va pas avoir chacun de ces additionneurs qui va nous sortir une valeur valide au même instant. D'abord, le premier additionneur va nous sortir sa valeur valide, puis le deuxième, etc. À tout instant, à nouveau, ils sortent une valeur, mais par contre, nous, on doit attendre que la valeur devienne valide pour pouvoir l'utiliser. Donc, si on les laisse comme ceci, directement les connecter, eh bien, cet opérateur-là, on ne sait pas à quel moment il va nous sortir une valeur valide, et donc globalement, l'exécution risque d'être incorrecte. Donc on ne peut pas simplement connecter de cette façon-là les opérateurs, on doit en fait séparer leur exécution de façon à bloquer la propagation de l'information du premier opérateur vers le second jusqu'à ce que l'on sache que le premier opérateur nous donne une valeur valide, que toutes les sorties soient effectivement valides. Pour ça, on utilise des barrières qu'on appelle également des registres. Ce sont les registres dont Gérard vient de parler, donc qui ont en fait un double rôle. D'abord, ce rôle de séparation, d'isolation, empêcher la propagation des informations d'un opérateur à l'autre, mais aussi ils ont un rôle de mémorisation. Alors pourquoi mémorisation ? Pendant toute mon explication, la partie du haut ici, les valeurs d'entrée, sont restées constantes. Elles ont toujours été maintenues, et c'est nécessaire bien sûr aussi, puisqu'il faut un certain temps de calcul pour cet opérateur, donc on doit maintenir les entrées pendant une certaine durée. Donc non seulement il faut pouvoir séparer ici nos deux opérateurs, mais ensuite il faut pouvoir mémoriser la valeur qui a été passée pour la garder suffisamment longtemps pour pouvoir effectuer ce calcul. Donc c'est exactement le rôle de ces barrières, de ces registres, isoler et puis ensuite mémoriser l'information pour pouvoir tenir pendant le temps de calcul nécessaire. Comment est-ce qu'on implémente une de ces barrières ? C'est à nouveau extrêmement simple. Quelques portes logiques, je ne rentre pas dans le détail de la conception de la porte, les portes logiques classiques. Il y a une chose qui est particulière, c'est cette boucle de retour que vous voyez ici, soulignée en rouge. Alors pourquoi ? C'est pour la mémorisation. Qu'est-ce que c'est que mémoriser ? Mémoriser, on peut le dire, enfin une porte qui effectue une mémorisation, on peut dire que c'est une porte dont la valeur de sortie ne change pas. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la valeur de sortie ne change pas ? Eh bien, en réinjectant en entrée la valeur de sortie, et c'est exactement ce que fait cette boucle. Et il y a un certain nombre de mémoires qui sont effectivement implémentées de cette façon-là, en créant une boucle au niveau de l'information. Une autre façon d'implémenter la mémoire, les mémoires principales des ordinateurs, c'est en utilisant des capacités. Alors, dernier problème maintenant, donc outre l'implémentation du registre lui-même, c'est quand est-ce qu'on ouvre nos barrières ? Quand est-ce qu'on laisse passer l'information ? Eh bien, dans un processeur, vous allez avoir une chaîne d'opérateurs comme ceci, et de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir des temps différents d'ouverture, puisque cette chaîne, la performance de cette chaîne, va être déterminée par l'élément le plus lent. Donc ce que l'on fait simplement, on regarde parmi tous nos circuits quel est celui qui est le plus lent, et on détermine en fait le temps d'ouverture, la période d'ouverture de nos barrières en fonction de cet élément-là, et on l'utilise partout à l'intérieur de nos circuits. Donc ça, c'est la fameuse horloge, le signal d'horloge que l'on a à l'intérieur de nos processeurs. Donc la période de ce signal d'horloge, eh bien, c'est simplement le temps d'exécution du circuit le plus lent. Ici, ça serait le temps d'exécution de notre additionneur 4 bits. Et donc ce cycle d'horloge, 1 sur ce cycle d'horloge, c'est la fréquence de fonctionnement de nos processeurs que nous connaissons. Enfin, donc lorsqu'on achète un processeur, on nous parle souvent de la fréquence de fonctionnement de ce processeur. Alors, maintenant qu'on sait séparer comme ceci deux opérateurs, la question qui se pose reste toujours comment est-ce que je crée une séquence d'opérations, un algorithme ? Je sais faire les fonctions, je sais maintenant connecter deux opérateurs, comment est-ce que je peux réaliser un circuit complexe qui est en fait un algorithme ? Alors, on va prendre un exemple qui est le multiplieur. Gérard a déjà montré en fait comment faire des multiplications. Ici, c'est la multiplication telle que nous, on l'a fait. Donc, nous, on la pose comme ça. Et en fait, si on traduit ça en circuit, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on met beaucoup d'additionneurs et on va faire toutes ces additions quasiment en même temps. C'est ce qu'on appelle le multiplieur combinatoire. Et les processeurs d'aujourd'hui utilisent un multiplieur qui est beaucoup plus de ce type-là que celui que je vais montrer après. Il a un défaut, il coûte cher, il y a besoin justement de beaucoup d'additionneurs. Pensez à une addition 64 bits, on a effectivement énormément d'additionneurs à mettre, ça coûte très cher. Et même jusqu'au milieu des années 80, la plupart des processeurs n'avaient pas de multiplier parce que ça coûtait trop cher. Comment est-ce qu'on faisait ça? Eh bien, on implémentait le multiplier non pas comme une fonction, mais comme un algorithme. Alors, quelle est la différence? C'est presque exactement la même chose. Donc, la seule chose qui varie, c'est qu'on fait l'opération un tout petit peu différemment. On l'a fait de cette façon-là. On prend un chiffre du multiplier, on fait notre multiplication, ça nous donne un résultat intermédiaire qui est mis en rouge. Et puis après, on prend notre deuxième chiffre, multiplication, on l'additionne aux deux, nouveau résultat intermédiaire, etc. Donc simplement, on fait notre multiplication de façon itérative. Alors, le gros intérêt de ça pour nous, du point de vue du circuit, c'est qu'à tout instant, on a juste besoin d'un seul additionneur, donc ça va nous coûter plus cher. Par contre, ça a été donc une fonction qui est devenue maintenant un algorithme. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter cet algorithme? Déjà, première question, quels sont les circuits dont on a besoin pour implémenter cet algorithme? Eh bien, si on regarde ce que l'on a, on a besoin de stocker nos opérandes ici. Donc, on a besoin de nos barrières, nos registres pour stocker nos deux opérandes, première chose. On a un résultat intermédiaire qu'on doit stocker aussi. Donc, on a besoin d'un autre registre pour ce résultat intermédiaire. Et comme je l'ai dit, on a une addition à effectuer. Donc, on a besoin d'un additionneur. Donc, voilà les principaux éléments dont on a besoin. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Comment on les connecte? Eh bien, à tout instant, on va additionner le résultat intermédiaire avec l'opérande 1 qui a été décalé. Donc, on a en fait besoin de connecter nos différents circuits comme ceci. On prend notre résultat intermédiaire et on en fait l'addition avec l'opérande et on va stocker à nouveau le résultat dans notre registre de résultats intermédiaires. Donc ça, ça nous donne les principaux composants dont on a besoin pour faire un multiplier, mais ça ne nous donne pas un multiplier. Si je lance mon horloge maintenant, je ne vais pas avoir une multiplication qui va s'effectuer ici. Je dois contrôler l'exécution de mon circuit pour obtenir effectivement le comportement du multiplier. Alors comment est-ce que je peux faire ça? De quoi je dispose pour contrôler mon exécution? Eh bien, donc à nouveau, ce qui peut être un peu troublant si on pense programme, ce n'est pas du tout que je vais agir au niveau de l'additionneur. L'additionneur fonctionne en permanence. Le seul endroit où j'agis vraiment, c'est au niveau des registres. Et je détermine en gros quand est-ce que je vais écrire dans ces différents registres. Donc tous les registres ont en général un signal très simple qui contrôle l'écriture. On le note W pour write en général. Et donc on a un signal d'écriture pour nos opérandes dont on a besoin à l'initialisation pour stocker au début la valeur. Et puis ensuite, à chacune des étapes, on a besoin d'un signal W aussi au niveau du résultat. On a besoin de quelques éléments supplémentaires. On doit décaler ici les valeurs du registre à gauche. Je ne montre pas exactement comment c'est fait, mais c'est juste rajouter quelques portes logiques. Et on peut décaler donc à chaque étape notre registre opérande 1 à gauche. On a une petite astuce pour récupérer le bit courant de la multiplication du multiplier. Eh bien, c'est plus facile de toujours le récupérer à la même position. On va le récupérer le plus à droite dans le bit de poids faible. Et pour faire ça, on va décaler en fait à chaque étape l'opérande 2 à droite. Donc on a un décalage à gauche, un décalage à droite. Et c'est juste fait avec quelques portes logiques. Mais pareil, on a besoin d'un signal ici qui est shift pour contrôler le décalage. Donc tout ce que l'on a comme élément de contrôle, c'est les signaux d'écriture, W résultat, W opérande. On a notre signal de décalage. Au début, on doit remettre à zéro le registre résultat intermédiaire, puisqu'on va accumuler les informations dedans. Et puis on a quelques signaux d'état, donc la valeur du bit courant du multiplier, ici. Et puis savoir simplement si on a terminé. Comment savoir si on a terminé? On fait juste un non-nous des bits du multiplier, ça veut dire quand tous les bits sont à zéro, eh bien on a terminé, on peut s'arrêter. Alors, à quoi ressemble maintenant l'algorithme ici du multiplier? Eh bien, au début, on fait l'initialisation, donc on va activer ici l'écriture des valeurs qui arrivent dans les registres opérandes, on remet à zéro le registre résultat intermédiaire, et puis ensuite, eh bien, on va commencer à effectuer notre opération de multiplication. Donc pour ça, on va tester le bit courant du multiplier. De deux choses l'une, soit ce bit est à 1, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit simplement prendre la valeur de l'opérande 1, l'ajouter au résultat et la stocker dans le registre résultat intermédiaire. Comment on fait ça? On doit juste activer en fait le bit WResult que vous avez ici. Si jamais le bit du multiplier est à 0, eh bien, en fait, on n'a rien à faire, on ne va pas ajouter 0 au contenu courant du résultat intermédiaire, donc on saute simplement cette étape, et puis après on continue. Continuer, c'est se demander d'abord si on a terminé, et après, eh bien, on passe à l'itération suivante, donc on décale à gauche et à droite nos opérandes pour pouvoir passer à l'étape de multiplication, l'addition suivante, et on reboucle. Et avec ça, on a notre algorithme, notre organigramme du multiplier. Alors, on n'a pas encore un circuit. Maintenant, il nous faut le convertir en circuit. Donc, en fait, on peut faire ça si on se rend compte que quand on exécute un organigramme, eh bien, tout se passe comme si vous aviez un jeton, donc que vous passiez progressivement à travers les différentes boîtes. Donc, au début, dans l'étape d'initialisation. Ensuite, vous suivez ici les différentes flèches suivant les valeurs. Vous passez ensuite à cette étape-là, etc. C'est la façon dont nous, humains, on regarde un organigramme. On a exactement comme si on avait un jeton mental qui passait à travers nos différentes boîtes. Ce jeton, on peut le matérialiser par un signal à 1. Si partout dans notre circuit de contrôle, on a des zéros, sauf à un endroit, on a un signal à 1, eh bien, on a exactement matérialisé notre jeton. Eh bien, on peut faire ça en convertissant très simplement les différents blocs de notre organigramme en un circuit. Donc, par exemple, si on regarde le cas où on a deux boîtes consécutives dans notre organigramme, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas réunies en une seule boîte ? Parce qu'on voulait imposer que deux actions s'effectuent à deux instants différents. Comment est-ce qu'on peut imposer ça au niveau d'un circuit ? Eh bien, simplement, toujours à nouveau, en introduisant notre barrière. Donc, notre jeton A1 arrive ici, il déclenche le premier signal, une barrière qui va nous introduire un délai d'un cycle, le jeton passe et il déclenche le deuxième signal. Autre cas de figure qu'on a d'ailleurs dans notre organigramme ici, quand on a la jonction de deux chemins ici, c'est comme si on avait deux fils qui pouvaient porter sous notre jeton à 0 ou à notre jeton à 1 dans un endroit ou dans un autre. Comment est-ce qu'on peut matérialiser le fait que notre jeton à 1 vienne de deux endroits différents ? Eh bien, très simplement par une porte OU ici. Le cas un tout petit peu plus compliqué, c'est le cas de du test. Si on a une condition ici, on peut le matérialiser donc par deux portes E. Notre jeton arrive, il peut passer dans l'une de ces deux portes. Ici, on a notre condition. Si elle vaut 1, eh bien, c'est cette sortie-là qui vaudra 1, celle-là vaudra 0. Et donc, si elle vaut 0, c'est l'inverse. Donc, on a bien un aiguillage exactement ici, comme sur notre test dans l'organigramme. Donc, on peut reprendre maintenant notre organigramme et exactement suivant ce principe-là, le convertir en circuit. Donc, ici, notre test avec la porte qu'on a vue. Ensuite, on a ici une action. Donc, il faut faire attention à la séparer de l'action précédente. On met une barrière. On a une jonction ici. On met une porte OUF. Ensuite, on a un test à nouveau. Et puis, on a une action. Pareil, on la sépare. On reboucle. Donc, on a une jonction à ce niveau-là. On rajoute une porte OU et voilà, on a en fait un circuit complet qui fait exactement cet organigramme-là et c'est un circuit de contrôle de notre multiplier. Maintenant, pour obtenir le multiplier, la seule chose qu'on doit faire, eh bien, c'est simplement brancher ces fils-là. Donc on branche W opérande ici, on branche opérande 2, on l'amène ici, W résultat, etc. On branche donc simplement les composants qui nous servent à faire la multiplication avec le circuit de contrôle et on obtient effectivement un circuit de multiplication. Donc ça, c'est une démarche en fait, qui est finalement assez générale pour concevoir le circuit correspondant à un algorithme. On identifie d'abord les différents blocs dont on a besoin dans notre algorithme, on pose ensuite l'algorithme, on l'écrit sous forme d'organigramme, on le convertit en un circuit de contrôle, on branche les deux ensemble et on a en fait notre circuit. Maintenant, on revient à notre processeur. Ce que l'on veut faire, c'est pouvoir faire ça pour tout type d'algorithme. Alors, de quoi on a besoin ? Cette partie, elle est en fait plus générale qu'on ne le pense. On a vu qu'on allait tout décomposer en opérations élémentaires. Toute opération élémentaire, elle a besoin de deux opérandes. On a nos deux opérandes et puis un résultat. On a notre registre résultat. Par contre, on est un petit peu limité ici. On a un additionneur. On a vu comment on pouvait généraliser ça. Il nous faut une unité arithmétique et logique. Mais c'est pratiquement tout ce dont on a besoin pour généraliser la partie fonctionnelle. C'est un petit peu plus difficile maintenant de généraliser la partie circuit de contrôle. Donc là, c'est un circuit vraiment dédié. On ne peut pas reprendre ce circuit-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner un peu à l'organigramme et se demander comment on peut généraliser cet organigramme. Bien, si vous regardez chacune des étapes de l'organigramme, ce qui distingue chacune de ces étapes, au fond, c'est la partie en rouge, c'est-à-dire quels sont les signaux de contrôle de votre circuit que vous allez activer. Alors, comment est-ce qu'on peut généraliser ça? Eh bien, on peut en fait essayer de regrouper tous les cas possibles. Tous les cas possibles, c'est quoi? C'est l'ensemble des signaux de contrôle qu'on doit pouvoir activer au niveau de notre circuit. Donc, on peut créer un champ qui est un champ de bits, finalement, qui correspond à l'ensemble des signaux de contrôle. Et avec ce champ-là, en changeant simplement les valeurs que l'on a, 0 quand on ne veut pas activer, 1 quand on veut activer, on décide, on peut avoir toutes les combinaisons possibles des activations de signaux de contrôle, donc finalement toutes les actions possibles au niveau de notre circuit. Et donc ceci, c'est en fait exactement une instruction, telle qu'on la trouve aujourd'hui dans notre processeur. Une instruction dans un processeur, c'est un champ de bits, et le rôle de chacun des bits, c'est d'activer un des signaux de contrôle à l'intérieur de notre processeur. Et du coup, notre organigramme qu'on avait tout à l'heure, eh bien, on peut le réécrire sous forme d'une séquence d'instructions, et la seule chose qui va varier, dont je ne l'ai pas fait, mais la seule chose qui va varier entre ces différentes instructions, c'est quelles sont les valeurs des bits pour activer les différents signaux de contrôle que l'on a là. Donc, ici, on a le support sous forme de circuit pour la partie fonctionnelle, et maintenant, on commence à se rapprocher d'une généralisation de la partie contrôle. Alors, comment est-ce qu'on peut implémenter exactement cette partie-là? Eh bien, on doit avoir une séquence, ici, d'instructions. Donc, on a notre partie calculatoire, logique et calcul. Pour implémenter la séquence d'instructions, ici, on a un champ de bits. Cet ensemble de champs de bits, il faut pouvoir le stocker quelque part. Donc, on va introduire une mémoire. Et donc, chacune des cases de la mémoire va correspondre à exactement ce champ de bits que l'on a ici. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de parcourir cette séquence, donc passer à travers les différentes instructions une à une. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, il suffit à chaque fois de se souvenir de la position courante en mémoire de notre instruction. Donc, on mémorise dans un registre à nouveau la position en mémoire de notre instruction. Et ensuite, on doit simplement passer à l'instruction suivante. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on prend la position en mémoire, on lui ajoute 1 et on la réinjecte dans ce petit registre-là. Et donc, ça nous permet, ça nous donne le circuit dont on a besoin pour passer à travers les instructions. Eh bien, avec ça, maintenant, je peux donc faire n'importe quelle séquence d'instructions, comme je peux décomposer toute fonction arithmétique et logique en une séquence d'instructions, je peux implémenter n'importe quelle fonction. Comme un algorithme, c'est une séquence de fonctions, je peux implémenter n'importe quel algorithme. Et si je regarde maintenant un des tout premiers ordinateurs qui a été créé par Von Neumann, eh bien, en fait, on retrouve une structure extrêmement similaire à celle-là. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Presque exactement le circuit que je viens de montrer, qui nous permet de faire addition, multiplication et toute expression logique, simple. Et ici, surligné, vous avez exactement le circuit qui nous permet de parcourir les différentes instructions, tout ceci connecté avec la mémoire. Alors, il y a quelques éléments supplémentaires, comme ce registre ici, ce multiplexeur ici et ici, et je vais vous expliquer exactement à quoi ils servent. Alors, donc cet ordinateur qui s'appelle IAS, donc IAS veut dire Institute for Advanced Studies, donc c'était à Princeton, donc c'est là où travaillait Von Neumann. Eh bien, donc dans cet ordinateur, toutes les instructions ont quel format? Donc presque exactement ce que je viens de dire, plus exactement ce dont j'ai parlé, ça correspond à la partie opcode. Donc ça, c'est le champ de bits qui contient donc les informations, enfin les bits pour activer les signaux de contrôle. Il y a une chose supplémentaire qui a été rajoutée ici, c'est le champ opérand. En fait, chaque instruction ne va pas seulement chercher ces informations, les sources, les opérandes du calcul dans les registres, elle va en fait aussi les chercher depuis la mémoire. Et donc pour ça, donc chacune des opérandes, chacun des opérandes ici correspond en fait à une adresse dans l'emplacement d'une donnée en mémoire. Donc vraiment la mémoire a deux rôles, elle sert à stocker les instructions, c'est d'ailleurs la principale innovation de Von Neumann d'avoir suggéré de mettre les instructions dans la mémoire, et le deuxième rôle de la mémoire, c'est de stocker en fait les données qui servent au calcul. Alors, si on prend une de ces instructions et on regarde comment est-ce qu'elle s'exécute, donc une instruction très simple pour faire une addition entre le registre résultat intermédiaire qu'ils appellent l'accumulateur, qui est ici, et un opérande qui est en mémoire, donc X correspond à l'adresse en mémoire de l'opérande du calcul. Comment est-ce qu'on procède? Au début, vous ne savez pas que vous avez cette instruction. La seule chose que vous avez, c'est la valeur courante de la position de l'instruction en mémoire dans ce registre. Je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle le Program Counter, PC. Donc, supposons que le PC a la valeur 35, ça veut dire que l'adresse en mémoire de l'instruction courante est 35. Eh bien, donc, qu'est-ce que l'on fait? On va commencer par envoyer 35 à la mémoire, de cette façon-là. Donc, on envoie à la mémoire. La mémoire nous renvoie les différents bits de l'instruction, à la fois les bits d'opcode et puis l'opérande. Donc, ici, on a récupéré l'information. On voit que l'adresse de l'opérande, c'est 3. Donc, ensuite, on continue à exécuter l'instruction. Donc, on va récupérer les signaux qui vont permettre d'activer le circuit de contrôle à l'intérieur de notre circuit. Et puis, vous voyez ici qu'on va chercher maintenant l'opérande. Donc, c'est pour ça qu'on a ce registre-là et ce multiplexeur. C'est parce qu'on a en fait deux chemins possibles pour la mémoire, un qui correspond aux instructions et un qui correspond aux données. Ensuite, pareil, la mémoire va nous renvoyer maintenant la donnée qui était à l'adresse 3, donc 28. Ensuite, eh bien, on va demander de faire le calcul, donc ce que vous voyez ici. Donc on active les signaux de contrôle, notre C1 et C0 au niveau de l'unité arithmétique et logique. On effectue notre calcul, on stocke. Donc ce que fait cette étape-là, c'est aussi activer l'écriture dans le registre résultat intermédiaire. On stocke notre résultat et on a terminé l'exécution de notre instruction. La seule chose qui nous reste à faire, eh bien, c'est de dire maintenant, on passe à l'instruction suivante. Donc on prend le contenu du registre ici, le PC, on lui ajoute un et on le réinjecte ici à l'intérieur du registre de PC. Alors pourquoi ce multiplexeur? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce multiplexeur exactement, mais il sert au branchement. Il permet en fait d'injecter une autre valeur à l'intérieur du PC, donc de faire un saut à une adresse et de ne pas seulement faire une séquence ici d'instructions. Donc voilà ce dont on a besoin pour pouvoir implémenter en fait notre processeur. Et vous voyez qu'on a un circuit qui ressemble énormément à celui qu'on avait précédemment. Et ça suffit pour en fait implémenter n'importe quelle séquence d'instruction, n'importe quelle fonction, n'importe quel algorithme. Alors ça, c'était en 1946. Eh bien, 25 ans après, ça ressemble beaucoup à la même chose. Donc on a toujours cette même structure. Et aujourd'hui, dans certains des processeurs simples, comme un ARM7 que vous avez... Très certainement, il doit y avoir une vingtaine, trentaine d'ARM7 dans cette salle. Eh bien, vous avez une structure qui est en fait encore très, très similaire à celle-ci. Toujours la même chose, une unité arithmétique et logique. Donc, une mémoire qui prend différentes formes ici à l'implémenter sous forme d'un banc de registre. On peut aussi aller en mémoire principale. Bon, mais donc une petite mémoire. Vous chargez votre instruction ici. Ensuite, vous la décodez, vous effectuez votre opération et vous réécrivez le résultat. On fonctionne exactement suivant ce principe-là dans ce premier processeur d'Intel qui a été créé en 1971. Alors, c'est non pas le premier processeur, mais le premier microprocesseur. Si rien n'a changé, ou en tout cas peu de choses ont changé en structure, ce qui a énormément changé en 25 ans, c'est la partie technologie. On est passé de tube à vide, d'un appareil qui faisait toute une salle, à quelque chose qui tient sur une puce. C'est pour ça qu'on parle de microprocesseur, en fait un processeur qu'on peut entièrement faire tenir sur une puce. Donc le premier microprocesseur d'Intel, le 4004, en 1971, 2250 transistors, 740 kHz, un processeur d'Intel aujourd'hui, le Levy Bridge, 1,4 milliard de transistors, 3,5 GHz. Alors on va voir donc pourquoi, comment on est passé en fait de l'un à l'autre, qu'est-ce qui a dirigé un petit peu cette évolution. Au début, ce dont les architectes se sont avant tout souciés, c'est de l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que si vous prenez l'IAS et que vous essayez de faire quelque chose d'aussi simple que parcourir en fait, les éléments d'un tableau, donc c'est une des choses les plus élémentaires qu'on puisse faire, eh bien, c'est en fait très compliqué avec le jeu d'instructions de l'IAS. Vous êtes obligé d'écrire un code qui est auto-modifiant, donc qui est une petite horreur d'un point de vue programmation. C'est un programme qui doit se modifier lui-même pour pouvoir effectivement faire quelque chose d'aussi élémentaire que parcourir un tableau. Alors c'est pour ça qu'au début, les architectes ont essayé de faire en sorte de rendre la vie de l'utilisateur plus facile. Et donc, ils ont introduit un certain nombre de choses au niveau du jeu d'instructions qu'on va voir pour simplifier sa vie. En termes de structure elle-même, il n'y a pas énormément de changements. Voilà l'IAS, voilà un des ordinateurs d'IBM. IBM a eu un énorme impact au début sur les premiers ordinateurs, pardon, les premières générations d'ordinateurs. Donc on trouve énormément de choses, notre PC, la façon de communiquer avec la mémoire, notre unité arithmétique et logique. On a quelques éléments supplémentaires comme un banc de registre, des unités de calcul différentes, calcul décimal, c'est quelque chose qui a disparu, calcul flottant, banc de registre associé, mais vraiment le principe et la structure est extrêmement similaire. Ce qui a vraiment changé, c'est ça, c'est le jeu d'instructions. Donc, comme je l'ai dit, le but, c'est de simplifier la vie de l'utilisateur. Comment est-ce qu'on peut lui simplifier la vie? Eh bien, en ajoutant un certain nombre de supports pour de la programmation. Par exemple, le parcours de tableau, donc l'adressage indexé, la programmation structurée, donc les appels de fonctions, enfin, considérer qu'on a différents types de données, des types entiers, flottants, voire même base 10, si on veut faire du calcul financier, à nouveau quelque chose qui a disparu, mais qui était là à ce moment-là, des chaînes de caractères. Ça veut dire aussi avoir des instructions de taille variable. Quand vous chargez une chaîne de caractères, vous ne connaissez pas le nombre d'opérandes, donc vous avez différents types de formats, tout type d'adressage. Et donc ça a permis d'apporter énormément de choses à l'utilisateur, de lui permettre de simplifier ses programmes, de les écrire de façon beaucoup plus dense. Ça a eu un effet de bord dont on ne s'est pas tout de suite rendu compte, c'est que finalement, pour chacune de ces instructions, si je revenais au transparent précédent, d'ailleurs je vais y revenir rapidement, eh bien chacune de ces instructions, finalement, elle a un petit organigramme ici, et on a vu que ce petit organigramme, il se traduisait en circuit de contrôle. Donc si on a comme ceci énormément d'instructions, on a énormément de circuits de contrôle, donc la taille du circuit de contrôle est en fait gigantesque. Et lorsque l'on veut passer d'une génération de technologie à une autre, eh bien ça nous demande énormément de temps, parce qu'on doit réadapter finalement tout ce circuit-là à cette nouvelle génération de technologie. Et ça, c'est vraiment le problème de ce type d'ordinateur. Et donc, je fais une petite digression sur la technologie, donc je vais expliquer comment est-ce que ça a déclenché un premier bouleversement dans la nature des processeurs que l'on a. Alors, quand je dis technologie, je parle de transistors. L'IS était fait avec des tubes à vide, donc à partir de à peu près la génération suivante de l'IS, donc la deuxième génération d'ordinateurs, on utilise des transistors, d'abord discrets, puis ensuite troisième génération intégrés, et puis donc ensuite simplement des dimensions de transistors qui diminuent inexorablement. Donc on a ce qu'on appelle la fameuse loi de Moore, elle est matérialisée par cette courbe, donc chacun des points sur cette courbe correspond à une machine réelle pour laquelle on a recueilli le nombre de transistors. Vous avez une échelle logarithmique, une interpolation linéaire, donc vous avez bien une croissance exponentielle du nombre de transistors, c'est-à-dire bien une division à peu près par deux ici, de la dimension des transistors tous les 24 mois environ, la prédiction de Moore. La loi de Moore, enfin, l'évolution de la technologie nous apporte vraiment deux bénéfices. Le fait qu'on ait un transistor plus petit, évidemment, ça nous donne la possibilité de mettre plus de transistors dans la même unité de surface. Mais en fait, ce qui est vraiment important, et ce que les constructeurs de processeurs ont réellement exploité depuis 30-40 ans, c'est vraiment la commutation plus rapide du transistor. Alors, si on voit un transistor, ça ressemble à peu près à ça. Enfin, vous avez, c'est un interrupteur qu'on commande électriquement. On le commande en appliquant un potentiel ici. Vous avez un transfert de charge du drain vers la source. Plus votre interrupteur est petit, plus le transfert se fait rapidement. Donc, plus vous avez une commutation rapide. Et si vous avez une commutation rapide, plus rapide, vous pouvez faire plus de choses par unité de temps et donc simplement aller plus rapidement. Alors, c'est ça ce dont on ne s'est pas tout de suite rendu compte et que quelques chercheurs ont identifié, c'est que c'était beaucoup moins important, en fait, d'augmenter le nombre de fonctionnalités que l'on avait à l'intérieur de notre processeur que d'être capable de très rapidement passer au nœud technologique suivant. Et quand on a commencé à se rendre compte qu'on avait cette progression très régulière, on s'est rendu compte que l'aspect vraiment important, c'était de pouvoir faire un saut très rapide, dès que le nouveau nœud technologique était disponible, de immédiatement recibler notre processeur vers ce nouveau nœud technologique pour pouvoir aller plus vite. Et c'était beaucoup plus important que d'avoir des fonctionnalités riches et assez en fait, complexes. Alors, c'est pour ça que ces quelques chercheurs qui ont identifié cette tendance ont créer des processeurs qui sont appelés RISC, qui veut dire Reduced Instruction Set Computer. Donc simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplifié le jeu d'instructions au contraire, ils ont réduit les fonctionnalités pour pouvoir très facilement passer de l'un à l'autre en ayant un circuit de contrôle beaucoup plus simple. Et méchamment, ils ont baptisé les autres ordinateurs Complex Instruction Set Computer. Et donc le fait est que bon, même si en apparence tous les jeux d'instruction aujourd'hui sont pas risques, à l'intérieur du processeur, la plupart des principes de fonctionnement sont effectivement ceux du risque. Donc ils ont plus ou moins remporté la bataille. Alors, à partir de là, les architectes ont essayé de faire deux choses. D'abord, ils ont essayé de, en quelque sorte, réaliser les promesses de la technologie, c'est-à-dire de réussir à traduire l'évolution régulière de la technologie, de la dimension des transistors, vitesse accrue des transistors, en une performance accrue des ordinateurs, et on va voir que ce n'est pas toujours facile à faire. Et dans un deuxième temps, ou plus ou moins en même temps, ils ont aussi essayé d'aller au-delà des bénéfices que pouvait apporter de la technologie, simplement en changeant l'architecture. Est-ce qu'on ne pouvait pas essayer aussi d'améliorer la performance ? Alors, déjà, comment gérer l'évolution de la technologie et pourquoi est-ce que ce n'est pas si facile ? Un exemple, je ne vais en faire qu'un seul, mais je pense que c'est peut-être le plus important, c'est qu'en fait, on a un écart croissant entre la vitesse du processeur et la vitesse de la mémoire. Pourquoi ? Il y a différentes raisons, mais de façon très schématique, c'est en partie lié à la structure des mémoires. La mémoire, vous pouvez le voir comme un très grand tableau, et on a besoin d'une longue ligne pour adresser toutes ces cellules. Et en fait, ça prend du temps de charger cette ligne-là. Plus on augmente le nombre de cellules, eh bien, plus la taille de cette ligne peut augmenter. Et donc, à cause de ce temps de chargement, en fait, on a une latence d'accès à la mémoire qui est difficile de réduire. Au début, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Quand on faisait un chargement depuis la mémoire, ça prenait peut-être 2, 3, 4, 5, 10 cycles processeur pour accéder à une donnée en mémoire. Aujourd'hui, sur les processeurs les plus performants, il faudrait 300 ou jusqu'à 500 cycles pour accéder à une donnée en mémoire. Sachant qu'en moyenne, vous avez une instruction toutes les quatre, une instruction sur quatre qui est une instruction de chargement en mémoire, la performance de nos processeurs aujourd'hui sera absolument ridicule si on n'était pas capable, d'une façon ou d'une autre, de réduire cet écart que l'on a entre vitesse du processeur, vitesse de la mémoire. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, en fait, ce qui marche remarquablement bien, pourtant qui est très simple, c'est, puisque le problème, c'est le fait que la mémoire est grande, eh bien, on introduit une mémoire toute petite entre le processeur et la mémoire. Le processeur ne voit que cette petite mémoire qu'on appelle une mémoire cache, et ça lui donne l'illusion qu'il communique avec une mémoire de grande rapidité. Alors, a priori, on peut se dire que c'est absurde, parce que la mémoire est toute petite, elle ne contient pas grand-chose, donc souvent, on va devoir aller en mémoire principale. Alors, c'est vrai que régulièrement, on doit aller en mémoire principale, on paye les 300-500 cycles, mais ce qui fait que ça marche très très bien, c'est qu'on a beaucoup de propriétés de réutilisation de nos données et de nos instructions dans nos programmes, pratiquement quelle que soit la façon dont on les écrit. Donc, si vous pensez par exemple à une boucle dans un programme, une boucle, vous repassez en permanence dans les mêmes instructions, donc vous réutilisez vos instructions. Première itération, vous payez vos 300 cycles, mais si après vous avez 1000 itérations, eh bien vous allez payer 1, 2, 3 cycles peut-être seulement pour accéder à vos instructions. Pour les données, c'est pareil. Pensez à un produit matrice vecteur. À chaque produit scalaire, vous allez réutiliser en fait votre vecteur. Donc, vous allez charger la première fois le vecteur dans le cache. Et ensuite, à chaque itération, eh bien, vous allez à nouveau réutiliser vos données. Donc, vous allez payer juste un ou deux cycles pour y accéder. Donc, ça fonctionne très, très bien. Alors, ça, c'est pour gérer en fait les promesses de la technologie. Donc, on y arrive. C'est un petit peu difficile, mais on y arrive. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'aller au-delà. Et notamment, ce que les architectes ont beaucoup fait, c'est regarder, se concentrer sur la façon dont les instructions s'exécutent à l'intérieur du processeur et chercher finalement les sources d'inefficacité et voir comment est-ce qu'on pouvait essayer d'améliorer ça, aller au-delà. Alors, si on regarde donc justement comment s'exécutent les différentes étapes de l'exécution d'une instruction, donc c'est ce que j'ai dit déjà, on l'a déjà vu, donc on va commencer par charger notre instruction. On va ce qu'on appelle la décoder, c'est-à-dire voir finalement quels sont les signaux de contrôle à activer, quels sont ses opérandes. On va ensuite l'exécuter et puis après, on va écrire son résultat intermédiaire. On peut redécouper ça en plus de sous-étapes. Et donc, comme Gérard l'a dit, certains des processeurs récents en fait, ont beaucoup plus d'étapes en fait, que ces quatre étapes-là. Mais bon, ce sont les quatre étapes principales que l'on trouve en général. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je viens de montrer ? Eh bien, si vous avez regardé, à chaque étape, j'utilise un des blocs de mon processeur, celui-ci, 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 et pendant ce temps-là, les autres blocs sont inutilisés. Et ça, c'est profondément inefficace. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me débrouiller pour que tous les blocs soient tous utilisés à tout instant à l'intérieur de notre processeur ? Ça serait une façon beaucoup plus judicieuse de mettre à profit les transistors dont on dispose. Alors, c'est ce qu'on peut essayer de faire. Eh bien, donc on peut donc charger une instruction. Et quand cette instruction, on passe à sa deuxième étape, l'étape de décodage, eh bien ce qu'on peut faire, c'est commencer tout de suite à charger l'instruction suivante, qui, elle, fait sa première étape. Et puis, quand la première instruction va faire sa troisième étape, le calcul, la deuxième instruction va faire son décodage, et on charge une troisième instruction, et puis ainsi de suite, on peut avoir comme ça jusqu'à quatre instructions en cours d'exécution à l'intérieur de notre processeur. Alors, je ne peux pas le faire directement sur ce processeur-là. La seule précaution que je dois prendre, eh bien, c'est en fait de redécouper ici mon processeur de façon à bien isoler les différents blocs. Comment est-ce que je les découpe ? Toujours pareil, je prends mes registres, mes fameux registres. Donc ici, on les appelle des registres d'étage. Donc j'ai pratiquement, enfin j'ai exactement les mêmes composants que j'ai montrés dans le transparent précédent, sauf que maintenant ils sont séparés par mes registres d'étage, ce qui permet de bien isoler les blocs. Et alors, donc lorsque j'exécute mon instruction maintenant, eh bien je charge ma première instruction. Au cycle suivant, elle va passer dans son deuxième étage, deuxième étape, et exactement en même temps, je charge la seconde instruction, troisième instruction, quatrième instruction, etc. Alors, quel est le grand intérêt ? Ben, comme la discussion finalement qu'on a eue tout à l'heure, dans le processeur initial que je vous ai montré, on sort une instruction tous les quatre cycles. Maintenant, avec ce principe-là, la durée d'exécution d'une instruction n'a absolument pas changé, voire même c'est un tout petit peu allongé parce qu'il y a le passage à travers les registres. Par contre, on sort maintenant une instruction tous les cycles. Donc on aurait en fait multiplié par 4 le débit, donc la performance simplement de notre processeur, simplement en faisant ça. Donc on a des gains qui sont relativement importants. Alors, les architectes donc, sont déjà relativement contents de cette partie-là. Ils se sont montrés encore plus, on peut se demander s'ils ne sont pas demandés trop ambitieux. Enfin, ils ont voulu aller encore plus loin. Ils se sont dit, bon, si j'ai déjà, je regarde ma figure précédente, j'ai déjà finalement 4 instructions. C'est quasiment comme si j'avais 4 instructions qui seront en train de s'exécuter en parallèle à l'intérieur de notre processeur. Pourquoi pas pousser ce raisonnement un peu plus loin et avoir 4 instructions qui vraiment vont s'exécuter en parallèle au sein du processeur. Pour ça, il faudrait que je multiplie un peu tout par 4. Donc j'ai 4 pipelines. Et si j'ai 4 pipelines, bien, a priori, en théorie, je peux très bien, si jamais je les trouve, charger 4 instructions qui puissent s'exécuter en parallèle. Quand ces 4 instructions ont terminé la première étape, eh bien, elles passent toutes les 4 à l'étape suivante, et j'en charge 4 autres, et ainsi de suite, et je peux avoir comme ça 16 instructions qui peuvent s'exécuter dans ce petit processeur en parallèle, à tout instant, enfin, à l'intérieur du processeur. Alors, dans un ordinateur comme celui que j'ai, par exemple, sur le bureau, vous pouvez avoir facilement une centaine d'instructions qui sont effectivement en cours d'exécution en même temps, enfin, à l'intérieur du processeur. Donc, le principe est vraiment très intéressant. Le potentiel est en fait très élevé. Si on regarde une petite analyse donc, qui a été faite sur différents programmes, donc il s'agit de prendre donc, différents programmes types, la nature des programmes n'est pas très importante, il s'agit d'un ensemble relativement varié, on va dire plus ou moins représentatif des programmes qui peuvent s'exécuter sur un ordinateur. Et donc on fait une sorte d'analyse théorique où on essaye de se demander combien en moyenne par cycle je pourrais trouver d'instructions à exécuter en parallèle. Donc quelles sont les ressources en quelque sorte en parallélisme au sein d'un programme, quel est le potentiel de la méthode. Le potentiel est en fait très élevé. Donc sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre d'instructions qu'on peut exécuter à chaque cycle en moyenne. Donc au pire, vous avez quelque chose comme 18 instructions, jusqu'à 150 instructions qu'on pourrait exécuter à chaque cycle. Donc potentiellement, c'est énorme, sachant qu'on part du processeur simple qui peut exécuter une instruction par cycle. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus dure, et donc ce que l'on a, c'est plus quelque chose comme ça. Alors pourquoi on a ça ? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais chaque fois qu'on a ajouté une optimisation, comme les caches, comme le pipeline, comme l'exécution superscalaire, on a aussi créé des cas où on ne pouvait pas atteindre la performance maximum. Donc dans le cache, il y a des cas où vous devez quand même aller en mémoire. Dans le pipeline, il y a des cas où, par exemple, une instruction peut être bloquée parce qu'elle doit faire un accès mémoire, parce qu'elle dépend d'une autre instruction. Dans le cas de l'exécution superscalaire, il y a des cas où on ne peut pas finalement trouver 4 instructions à exécuter en parallèle. Et à ça s'ajoutent en plus des contraintes matérielles. Tout ça coûte cher, notamment dans l'exécution superscalaire. Et on ne peut pas, de façon raisonnable, surdimensionner tous nos composants. Et si on factorise toutes ces contraintes ensemble et qu'on simule ça dans une architecture ou qu'on exécute ça dans une architecture réaliste, en fait, voilà le genre de performance vraiment qu'on peut obtenir. Bon, on peut pousser ça, on peut peut-être aller à, je sais pas, peut-être une dizaine d'instructions par cycle, quelque chose comme ça, en réalité. Mais déjà, on aurait des ressources totalement surdimensionnées pour pouvoir arriver à ça. Alors, c'est un petit peu décevant, mais bon, le bilan est quand même plutôt positif. On est malgré tout arrivé à une instruction par cycle, et surtout on est arrivé à ça, sachant que le temps de cycle, lui, a considérablement diminué. On est passé de 1 microseconde à 1 tiers de nanoseconde, donc on a un facteur 3000 déjà au niveau du temps de cycle. Donc simplement par le fait qu'on a réussi à obtenir une instruction par cycle, on a déjà eu des progrès gigantesques. Et ensuite, entre le pipeline et l'exécution superscalaire, on a à peu près un facteur 10 au total qu'on a apporté en plus. Donc on a quelque chose comme 10 000 en termes de gains en performance. Mais il faut reconnaître que quand même l'essentiel du progrès vient de la technologie, vient de l'augmentation régulière de la vitesse. Alors en fait, ça c'est problématique, parce qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, on ne peut plus faire ça. Enfin, donc, qu'est-ce qui s'est en train de se passer? On a eu une succession récente de chocs qu'on peut appeler technologiques, liés à la technologie, qui sont en train de profondément remettre en question la façon dont, pendant 30-40 ans, on a conçu des processeurs, et on va devoir maintenant, on commence déjà depuis quelques années, et on va devoir les concevoir de façon complètement différente, voire même abandonner la notion de processeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'abord d'énergie, de dégagement de chaleur. Chaque fois que vous faites vos commutations de transistors, vous dégagez un petit peu de chaleur. Plus vous augmentez le nombre de commutations par unité de temps, plus vous augmentez la quantité de chaleur dissipée. Et on est arrivé à un stade où la quantité de chaleur dissipée par unité de surface était trop importante pour qu'on puisse effectivement dissiper de façon économiquement réaliste, c'est-à-dire avec un refroidissement par air. Et donc, ce qui s'est passé, eh bien, on a essayé de pousser ça jusqu'au maximum, mais environ en 2004-2005, donc cette courbe correspond à l'augmentation de la fréquence, on a dû mettre le holà et on a dû arrêter de tirer parti du principal bénéfice de la loi de Moore, à savoir la commutation plus rapide des transistors. Et donc ici, on a toujours une augmentation, mais beaucoup plus légère, de la fréquence d'horloge. Donc on a dû finalement seulement se rabattre sur cette première bénéfice de la loi de Moore, qui est le nombre croissant de transistors, donc qui lui continue toujours à augmenter, comme vous le voyez. Quelle est la façon la plus simple d'utiliser un nombre supérieur de transistors? Eh bien, vous répliquez simplement votre processeur. Donc là où vous aviez un processeur, on en a deux, quatre. Donc ce qu'on présente comme une innovation, enfin ce que des sociétés comme Intel ou AMD présentent comme des innovations, ne sont absolument pas des innovations. D'abord, ce n'est pas nouveau, c'est surtout un choix de raison. On a dû se rabattre là-dessus parce que c'était la chose la plus simple qu'on pouvait faire. Alors ça a été énormément problématique, c'est très problématique pour toutes les sociétés qui conçoivent des architectures. Intel, pendant 30 ans, a même fait du marketing sur l'augmentation de la fréquence et c'était devenu très dur pour eux de comprendre comment se refocaliser sur la partie multicœur processeur. On a beaucoup reproché au PDG de l'époque, Craig Barrett, de s'entêter en dépit de ce que lui disaient ses ingénieurs sur cette augmentation de la fréquence. Il leur donnait des objectifs inatteignables. Les ingénieurs répondaient « ce n'était pas possible », ils continuaient. Donc ça, c'est Craig Barrett en train de s'agenouiller de façon ironique devant un panel de consultants de son manque de vision. Toujours est-il que 3 mois plus tard, il était remplacé à la tête d'Intel par Paul Otellini. Alors ça, c'est le premier choc qu'on a eu. Mais maintenant, le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. On a un deuxième choc qui est encore plus récent, qui date de 2010, et donc qui a été apporté par l'autre très grand constructeur, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui est aussi important, voire plus que Intel. C'est l'Intel des téléphones portables. Donc il y a plus de processeurs ARM dans cette salle, bien plus que de processeurs Intel. Donc ARM a parlé... annoncé qu'on allait avoir un problème qu'ils appellent Dark Silicon, toujours lié à un problème d'énergie. Donc, c'est un tout petit peu plus subtil, quel est le problème? Donc, chaque fois qu'on réduit la dimension d'un transistor, eh bien, on va réduire sa consommation, sa dissipation. Sauf que quand vous remplacez un transistor par 4 plus petits transistors dans la même superficie, la réduction de puissance n'est pas proportionnelle, et du coup, sans même changer la fréquence, vous allez en fait augmenter la quantité de puissance nécessaire dissipée par ces transistors. Et ça, c'est problématique parce qu'on est déjà à la limite de ce qu'on pouvait dissiper. Quelle est la solution? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir simplement éteindre une partie des transistors, et c'est pour ça qu'on a le terme « dark silicon » ici. On va devoir se résoudre à n'utiliser à un instant donné qu'une partie de nos transistors sur la puce. Ça, c'est terriblement problématique parce que ça sert à quoi de mettre plein de cœurs à l'intérieur d'une puce si de toute façon, on ne va pas pouvoir tous les utiliser en même temps? Le multicœur a vraiment du sens dans la mesure où on peut paralléliser et exécuter tous nos cœurs en même temps. Alors, la solution peut venir probablement non pas de la technologie, mais cette fois-ci un peu plus de l'architecture, et plus exactement de la spécialisation. Alors pourquoi est-ce que la spécialisation peut être intéressante? L'idée, c'est simplement de s'éloigner du processeur, de renoncer à cette notion d'un circuit universel qui peut exécuter n'importe quel type d'algorithme, et d'aller vers des circuits plus spécialisés. Pourquoi est-ce que c'est éventuellement une solution? Eh bien, parce que ces circuits spécialisés sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que ne le sont les processeurs. Donc ce graphe-là correspond au ratio en énergie, si vous regardez les barres en rouge, les barres en bleu, c'est le ratio en performance, le ratio en énergie entre un processeur haute performance qui exécute une tâche, donc ici c'est une tâche de traitement vidéo, les 4 barres correspondent à 4 des algorithmes de la tâche de décodage vidéo exactement, donc le ratio en énergie entre le processeur et le circuit spécialisé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le ratio moyen est énorme, l'ordre de 400. Donc il y a une source potentielle gigantesque de gains en allant vers des circuits spécialisés. Alors, quelle forme est-ce que ça peut prendre? Sans doute quelque chose comme ça. Donc on commence à se diriger vers ce genre de circuit, c'est-à-dire des multicœurs qu'on appelle hétérogènes. On va avoir une combinaison de cœurs et de circuits spécialisés qu'on appelle des accélérateurs qui permettent d'accélérer, donc d'exécuter à la fois plus vite et plus efficacement, énergétiquement parlant, un certain nombre d'algorithmes, un ou quelques algorithmes. Et ça, c'est complètement compatible avec le dark silicon parce qu'à un instant donné, eh bien, vous allez utiliser l'un de ces accélérateurs pour l'algorithme qui vous intéresse à ce moment-là et les autres ou les processeurs n'ont pas besoin d'être activés. Donc, vous pouvez vous permettre de n'avoir qu'une partie de la puce qui est fonctionnelle et tout le reste de la puce qui est éteinte. Et donc, ça, c'est totalement compatible avec cette contrainte. Alors, la difficulté maintenant, eh bien, c'est qu'on a bien sûr une infinité d'algorithmes que l'on veut pouvoir implémenter à l'intérieur de nos processeurs, à l'intérieur de nos circuits. Et on ne peut pas se permettre d'avoir évidemment autant d'accélérateurs que l'on a d'algorithmes. Donc, la principale difficulté, ça va être de résoudre ce compromis entre flexibilité et efficacité, c'est-à-dire de trouver quels sont les circuits qui peuvent être à la fois très efficaces énergétiquement, tout en ayant en fait un champ d'application qui soit relativement important, forcément pas aussi universel et important qu'un processeur, mais quand même suffisamment important pour qu'on puisse, avec quelques accélérateurs, eh bien en fait, l'union de ces accélérateurs couvre à peu près l'ensemble des programmes et qu'on arrive toujours à augmenter la performance de nos processeurs et de nos circuits. Voilà, je crois que je vais à peu près arrêter là. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.